علي الصوت بالغنى لسه الأغاني ممكنة.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 novembre 2024 et vous êtes dans Horizon 21, une émission proposée par les deux médias indépendants en ligne Afrique 21 et Orient 21 pour des regards croisés sur l'Afrique et le Proche-Orient. Cette nouvelle émission vous est proposée un mardi sur deux en direct et à 18h sur Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs via le site aligrefm.org. Je suis Mickaël Poron et je suis accompagné à la technique par Bruno Mandé et Armand Goury. Pour ce sixième numéro, nous allons parler de sentiments, et plus précisément d'un sentiment anti-français, qui se serait répandu dans les anciennes colonies françaises. Le 6 novembre, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI, et l'organisation Pro-Démocratie Tournons la Page ont publié un rapport intitulé « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Pour en parler, je suis heureux d'accueillir deux des auteurs de ce rapport, Brigitte Améganvi et Dan Sanaren. Bonjour et bienvenue à tous les deux. En janvier 2020, le président français Emmanuel Macron réunissait les chefs d'État africains de la région du Sahel, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie. Des soldats français de Barkhane, une opération militaire déployée dans cette région en 2013, venaient d'être tués. Dans la plupart de ces pays, des critiques ont commencé à émerger dans la population contre la présence des militaires français officiellement sur place pour lutter contre les groupes terroristes. La France est accusée d'ingérence, d'avoir des visées néocoloniales, d'avoir un agenda caché, ce qui expliquerait que les groupes armés n'ont pas été totalement éliminés, quand le comportement des militaires avec les Maliens est aussi pointé du doigt. Des manifestations commencent à avoir lieu devant les ambassades françaises pour réclamer leur départ. Cette réunion de janvier 2020 à Pau, en France, est dénoncée comme une convocation paternaliste de l'ancien colon qui entend sermonner ses affidés et leur demander de soutenir clairement la présence française. Quelques mois plus tard, éclate un premier coup d'État suivi d'autres putschs. Le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger. Dans ces trois pays, les nouveaux régimes militaires demandent à l'armée française de partir et laissent leur population exprimer leur colère contre les chancelleries françaises. La rupture est consommée. Dès le départ, la sémantique utilisée par les politiques français interpelle. Il y aurait un sentiment anti-français. Ce sentiment serait instrumentalisé par des puissances étrangères, dont la Russie, devenue depuis un partenaire militaire de ces pays. Je vous invite à écouter une archive d'Emmanuel Macron.
Utilisés par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu eux-mêmes la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation. Prédation. On parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé aux pieds. C'est une réalité. Et il est avec la complicité d'une junte militaire russe. Je préfère être clair avec vous, c'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la désinformation, un projet politique financé par la Russie, parfois quelques autres, le français est attaqué parce qu'au fond, derrière lui, c'est la France qui est attaquée.
Vraiment. Qu'en est-il vraiment ? Le sentiment anti-français, est-ce un sentiment instrumentalisé ? ou un rejet réfléchi, argumenté de la politique française dans ces pays. Comme je le disais au lancement de l'émission, le réseau Pro-Démocratie Tournons la Page et le centre de recherche de Sciences Po, le CERI, ont publié début novembre une étude extrêmement instructive sur le sujet. Donc pour en parler, Brigitte Améganvi, vous êtes l'ancienne présidente de Synergie Togo, une association de la diaspora togolaise en France, membre de Tournons la Page Europe. Vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration de Tournons la Page International et membre de son bureau exécutif. Dan Sanaren, vous êtes doctorant au CNRS, rattaché au Centre de Recherche Internationale, donc le CERI de Sciences Po. Vous travaillez depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest. De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom et donc le titre de votre étude qui se base sur le témoignage de près de 500 militants des droits humains en Afrique francophone? On vient d'entendre Emmanuel Macron donner son avis sur ce rejet. C'était en novembre 2022, au 18e sommet de la francophonie à Djerba, sur la chaîne TV5 Monde. Il s'est passé beaucoup de choses en deux ans. Quelle est votre réaction lorsque vous réécoutez le président français, Brigitte Améganvi, par exemple?
Bien, ma réaction, c'est de dire c'est le déni habituel, c'est l'arrogance qui ne passe plus, parce que ce n'est pas d'un sentiment contre les Français qu'il s'agit, il s'agit d'un rejet de la politique africaine de la France. Et ce rejet ne date pas d'hier.
Et le fait de mettre ça sur une instrumentalisation aussi de la Russie, on l'entend dès 2022 en fait, Emmanuel Macron insiste bien sur le fait que c'est instrumentalisé par la Russie, qu'en est-il?
C'est aussi ce qui ne plaît pas, ce qui ne passe plus, parce que c'est en somme une sorte d'infantilisation des jeunes Africains qui expriment une colère qui est parfois, souvent légitime et que l'on n'entend pas. Parce que c'est comme si on considérait qu'ils étaient incapables de réfléchir et incapables d'avoir autre chose que des émotions, c'est-à-dire des sentiments non fondés. Et ça, ce n'est plus acceptable.
Irrationnel, quelque part.
Irrationnel, en soi.
Alors, on va revenir sur cette question de sentiments anti-français, puisque vous y consacrez une large introduction dans cette étude. Mais alors d'abord, concernant l'étude, peut-être qu'on pourrait revenir, pour nos auditrices et nos auditeurs, sur la méthodologie. Là, je me tourne vers Dan Sanaren. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la méthode qui a été utilisée pour cette étude, qui est assez novatrice, quelque part, puisque vous êtes allé interroger beaucoup d'Africains?
Oui, absolument. Merci beaucoup, Michael. Donc, en effet, c'est un rapport qui repose donc sur un questionnaire quantitatif administré, qui est en tête à tête à 470 personnes dans 5 pays et des focus group, 10 au total, qui ont été menés dans 6 différents pays. Avec finalement l'enquête quantitative qui n'a pas pu être menée au Niger, notamment à cause du contexte post-coup.
Coup d'État.
Oui, après le coup d'État. Mais en effet, donc, on a privilégié une piste de double enquête, une quantitative, une qualitative, pour avoir donc, d'un côté quelque chose qu'on peut présenter de manière visuelle, avoir un sentiment en fait, avoir une représentation visuelle de ce que c'est, ces perceptions donneraient, et d'avoir le contexte qu'il ne faut pas négliger, dans tous les cas, le Bénin n'est pas la même chose que le Niger, n'est pas la même chose que le
Peut-être Tchad, que Dan, ouais. D'ailleurs, on peut citer les pays. Ouais.
Hein. Oui, absolument. Les donc, 6 pays, donc, il s'agissait de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger et le Gabon. Ce qui est assez intéressant, c'est que parmi ces pays, 2 ont connu des coups d'État au moment où on conduisait l'enquête, donc le Gabon et le Niger. Avec le Tchad qui est aussi passé par une période très instable, notamment juste au moment où nous avons commencé notre enquête là-bas, c'était au moment de l'assassinat de Yaya Dillo. Qui était l'un des principales figures de l'opposition. Donc ça faisait porter beaucoup d'incertitudes si on allait pouvoir l'amener ou pas au Tchad finalement. Donc voilà, ça nous a permis de recueillir beaucoup d'un côté de verbatim, de l'autre côté de statistiques sur les perceptions des militants, d'une élite militante, et je préfère dire élite militante puisqu'il s'agit des personnes éduquées qui sont engagées dans la scène militante depuis souvent des longues années, bien que le panel est très large et divers, qui ne sont pas que des personnes du Tournons la Page, bien que Tournons la Page était instrumental dans cette étude-là, puisque c'est...
On rappelle, un Tournons la Page, c'est un réseau de plusieurs associations organisations militantes qui sont membres en fait de Tournons la Page et qu'on trouve dans les pays africains.
Exactement, et c'est d'ailleurs les points focaux, donc les coalitions nationales de Tournons la Page dans les 6 pays dans lesquels on travaillait qui ont facilité donc cette enquête-là, qui ont permis, grâce à leurs contacts au sein de leur réseau, mais aussi en dehors, dans les scènes nationales, à trouver les personnes qui allaient répondre au questionnaire. Et qui nous a donc permis finalement de recueillir des visions très diverses, différentes, sur cette question du rejet de la politique française.
Alors d'ailleurs, ce rapport débute, on en a déjà un petit peu parlé avec Brigitte, mais on va revenir dessus, débute par une longue mise au point concernant ce que vous appelez dans le rapport une facilité langagière, ce fameux sentiment anti-français qu'on a beaucoup entendu. Alors, quelles sont les leçons que vous tirez de cette étude concernant cet élément de langage? Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Dan ou Brigitte?
Dan.
Oui, pourquoi pas. Ce qui était assez intéressant, c'est que l'expression « sentiment anti-français » était unanimement rejetée partout. Partout, par n'importe qui avec qui on discutait, c'est quelque chose qui était rejeté de manière souvent assez directe. C'est-à-dire qu'on n'emploie pas cette expression, ce n'est pas une expression qui est employée en Afrique, pas dans les pays dans lesquels on étudie, et qui fausse complètement la perception du problème. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment, ça renvoierait d'un côté, comme vous l'avez déjà abordé, à un sentiment noir, quelque chose d'irrationnel, qui s'opposerait donc à une raison blanche, une raison française, et que finalement, ce rejet de la politique, cette critique de la politique française serait complètement irrationnelle. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle est bien fondée dans des problèmes très contemporains. Donc nous, on s'attendait, en partant dans cette étude-là, à avoir beaucoup d'ancrage historique, ce qui n'était pas forcément le cas. Les problèmes étaient souvent très contemporains, très d'aujourd'hui et d'actualité. Et en même temps, il y a eu beaucoup de débats sur la question, finalement, sentiment anti-français, mais... Est-ce qu'en France, on n'aurait pas un sentiment anti-africain avec des répondants qui sont souvent très à jour avec l'actualité politique française, mais aussi européenne et mondiale.
C'est un petit peu l'effet boomerang. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un miroir en fait, qui est fait.
Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit. Finalement, on a, que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, au Mali où on en a discuté avec d'autres personnes, alors que ça ne faisait pas vraiment partie de l'étude... Mais est-ce que, finalement, les personnes nous disaient, nous, on ne connaît pas de cas où les Français ont été attaqués. Par contre, si on regarde les actualités françaises, les Africains se font agresser souvent. Racisme est, le racisme systémique, le racisme en France est, monte en puissance, que ce soit, qu'on peut voir aussi d'ailleurs avec les résultats des élections, c'est quelque chose qui nous a été, a été dit. Le RN est devenu...
Rassemblement une force, national, de Marine Le Pen.
Est devenu une force politique importante et il ne se cache pas derrière des idées souvent qu'on pourrait qualifier de racistes. Donc c'est quelque chose qui était assez intéressant de voir leur perspective sur ça. Mais donc, pour faire assez court, donc, l'idée d'un sentiment anti-français était refusée puisque ce n'est pas contre la population française qu'on va aller, mais vraiment contre la politique et la manifestation de cette politique-là en Afrique.
En Afrique. Ouais. Brigitte, sur cette question de miroir, justement, qui est ressortie dans l'étude, c'est-à-dire que ces militants qui renvoient ce sentiment en disant en fait, peut-être que c'est en France qu'il y a un sentiment anti-africain. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été ressorti également au tout début de l'étude, parce que lors de l'Assemblée générale de Tournons la page en janvier 2023, l'Assemblée générale a eu lieu à Cotonou, il y a eu un atelier qui avait commencé à débroussailler le terrain, puisqu'on avait la chance d'avoir pratiquement une centaine de membres qui étaient présents sur place. On a organisé cet atelier et c'était un élément qui était ressenti comme vraiment une injure que l'on parle de sentiment lorsqu'il s'agit de ce rejet d'une politique.
Et des Africains, en fait. Les
voilà.
Tout à l'heure, Dan a fait Africains. Une référence à Senghor.
Tout à fait.
La raison blanche, et voilà.
Voilà. Et en revanche, les gens mettent ça en opposition avec une politique des visas, qui s'est vraiment durcie, avec des conséquences économiques dramatiques et injustes. C'est-à-dire que vous payez des sommes de plus en plus élevées pour déposer une demande de visa. Et lorsque le visa est rejeté, on ne vous rembourse pas votre argent. Et donc, on a pratiquement l'impression que c'est la France qui pompe les revenus des Africains les plus démunis pour enrichir des sociétés qui sont peut-être des prestataires qui traitent ce genre de dossier-là. Les gens supportent d'autant moins qu'on leur envoie un sentiment, on renvoie la présence d'un sentiment, alors que leur quotidien,
manière réelle,
est vraiment affecté par des décisions qui sont de plus en plus
Politiques. Ouais. Je l'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à aller sur Afrique 21. On a consacré pas mal d'articles sur cette question de visa et de durcissement de la question du visa et sur le prix. On a eu beaucoup de témoignages, notamment d'étudiants aussi qui se retrouvaient dans une précarité, ce qui nourrit effectivement un ressentiment, pas un sentiment, mais en tout cas des critiques contre la politique française. Alors ce rapport aborde de nombreuses thématiques, parmi elles la sécurité, l'économie, la démocratie. Alors sur la sécurité, la présence de l'armée française, je le disais en introduction, puisque j'ai voulu commencer justement par cette histoire de l'armée française qui a été mise dehors de 3 pays africains. La présence de l'armée française dans plusieurs pays d'Afrique est largement décriée. Que lui reproche-t-on exactement, en fait, Dan, peut-être?
Au moment où nous avons commencé cette étude-là, la France était présente militairement au Niger, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, c'est-à-dire ces 4 des 6 pays qui ont une présence militaire qui à l'époque était permanente, disons. Depuis, au Niger, il y a eu des évolutions. Pareil au Tchad, et il y a des discussions par exemple sur la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des rumeurs sur le Bénin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une base secrète au nord du Bénin, une base secrète française au nord du Bénin, qui s'est un peu invitée dans la discussion que nous avons eue à Cotonou avec les militants. Mais donc, cette question des bases permanentes était assez intéressante, puisqu'en fait, elle montrait un peu tout le problème de l'architecture de coopération sécuritaire qui existait. C'est-à-dire qu'on a souvent perception que la présence militaire française en Afrique n'est pas là pour garantir, n'est pas là pour une coopération, mais elle est là pour garantir les intérêts des Français. Des intérêts français en Afrique, que finalement elle ne correspond pas exactement aux besoins des armées africaines, ne correspond pas aux besoins, donc ne respecte pas forcément la souveraineté des pays africains, que finalement elle est globalement assez inefficace.
Oui, c'est un reproche qu'ils font, en fait. D'ailleurs, il y a des statistiques où vous avez tiré des réponses.
80% des répondants donc, pensent que la France n'est pas un partenaire fiable dans la sécurité, ce qui est quand même assez énorme. Les propos sont sont différents et beaucoup plus nuancés, dans le sens où on pense que l'architecture actuelle ne correspond pas, mais on n'est pas certain s'il faut donc complètement rompre ou s'il faut changer les choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était assez intéressant, puisqu'on parlait beaucoup du Sahel, on parlait beaucoup de Barkhane, qui a marqué les esprits, l'opération Barkhane au Sahel central, et qui a été vécue comme une grande désillusion par par beaucoup de personnes de la société civile. Notamment, en fait, on se disait, comment est-ce qu'une armée si puissante puisse perdre contre des gens des groupes...
Groupes armés moins, a priori, moins puissants, moins sophistiqués que la France.
Donc c'était vu comme un échec, une désillusion. Et donc en fait, à cause de ça, en parallèle, on pense aussi que les armées africaines ont la capacité à répondre aux défis sécuritaires.
J'allais y venir, une question très importante que j'ai relevée aussi dans votre rapport. Il est reproché à la France, et plus largement d'ailleurs à l'Union européenne, de ne pas fournir les armes nécessaires à la lutte contre les groupes armés aux armées nationales. Donc beaucoup pensent que leur armée nationale a les capacités, est très bien formée et pourrait défendre son territoire, mais que l'Union européenne et la France lui refuse finalement des armements de haut niveau. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle, c'est que quelqu'un cite le président du Burkina Faso, qui dit, lui, il dit que quand il va en Russie, au moins la Russie lui fournit vraiment l'armement qu'il souhaite. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'exagération, ou est-ce que c'est quelque chose de très concret?
Alors, je pense que ça peut être un peu des deux.
Un peu des deux.
Mais en effet, en fait, le partenariat avec la Russie est apprécié comme un partenariat, c'est-à-dire que s'il y a c'est un discours qui est souvent tenu par les leaders des juntes, à l'image de Ibrahima Traoré au Burkina Faso, c'est-à-dire que la Russie, quand il y a des demandes des partenaires africains, ils vont y répondre. Souvent, et c'est ça qui était rapproché, comme tu l'avais dit, avec les partenaires européens, ils ne vont pas forcément donner les armements, ils vont dire, ben non, plutôt prenez ça, ou voilà, ça vous servirait plus. Donc il y a toujours une discussion. Et donc finalement, on ne respecte pas forcément, ben non, nous on a besoin de ça. Et finalement, donc voilà.
Encore une fois, il y a un refus de souveraineté quelque part.
Exactement.
Enfin, c'est vécu comme ça en tout cas.
Exactement, c'est vécu comme ça. Et puis c'est la question en fait du double standard qui revient beaucoup, notamment avec l'Ukraine. C'est-à-dire que pour l'Ukraine, il y a un puits d'armement qui peut y aller avec des armements très sophistiqués, des armements coûteux, qui ne sont pas disponibles pour les partenaires africains et qui pourraient éventuellement leur être bénéfiques. Donc ça, c'est aussi vécu comme une injustice, comme quelque chose qui n'est pas correct de la part des partenaires européens.
Vous êtes bien sur Aligre FM dans l'émission Horizon 21. On va se retrouver après une courte pause musicale avec le morceau CFA du Sénégalais Didier Awadi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ambre Zayana. Mankara Awadi Sopandana International. Vas-y leur dire on n'en peut plus du mot du CFA. On n'en peut plus du mot du CFA. 60 ans que ça dure ce mot du CFA. Dis-leur le peuple d'Afrique qui n'en peut plus du mot du CFA. J'suis pas esclave, j'vais me libérer. J'suis pas l'oncle Tom, j'suis pas le traître qui m'a sidéré. Selon ce con, il faut que j'attende, il faudrait différer. Il me dit on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, qu'il faudrait tempérer. On n'est pas là pour les attendre, on va se fédérer. Trouver des solutions, même si c'est dur, on pourra tout gérer. La pompe afrique, on connaît pas la peine de s'ingérer. Tu dis c'est pour mon bien, mais toi tu bouffes, moi j'ai pas digéré. J'suis pas esclave dans ta plantation. J'suis pas ton négro dans la plantation. Moi je suis pas libre dans ta plantation, radicalement moi je dis merde à ta plantation.
Merde à ta plantation, merde à ta plantation. On n'en peut plus, c'est pas vraiment non. On n'en veut plus, c'est pas vraiment non. On n'en peut plus, on n'en veut plus. C'est pas vraiment non.
Pourquoi imposer le CFA? Qu'est-ce qui nous apporte dans notre vie ce mot du CFA? Pauvre endetté dans la merde à cause du CFA. La misère en nom des initiales, c'est le CFA. On nous impose une monnaie coloniale. Dans nos rangs, c'est plein de collabos, c'est plein de criminels. La notion de dignité pour eux n'a plus de sens. L'histoire, c'est la voix, mais l'imbécile la prend à contresens. Cette monnaie est créée par la France, gérée par la France et dirigée par la Banque de France. C'est elle qui évolue, qui dévalue. Quand j'évalue, pas possible que ça n'évolue. Donc, je suis pas l'esclave dans ta plantation. Je suis pas ton négro dans la plantation. Moi, je suis pas libre dans ta plantation. Radicalement, moi, je dis merde à ta plantation.
Merde à ta plantation. On n'en veut plus, c'est pas vraiment non.
L'esclave milite sa chaîne. Le jour où l'esclave veut se révolter, se débarrasser de sa chaîne, c'est une lutte. Mais l'esclave qui ne lutte pas, l'esclave qui ne prend pas l'engagement, ne peut pas se débarrasser de sa chaîne. Il reste esclave, quels que soient les sentiments et les discours moralistes de son maître. Les dirigeants, s'ils ne veulent pas être balayés par leur peuple, ils doivent s'identifier et respecter leur propre peuple et les intérêts de leur peuple.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris, en Ile-de-France et sur Internet partout ailleurs via le site aligrefm.org dans l'émission Horizon 21. Vous venez d'écouter CFA du Sénégalais Didier Awadi. Je suis toujours avec Dan Sanaren du série Sciences Po et Brigitte Améganvi de Tournons la Page pour parler du rejet de la France en Afrique. Cette chanson de Didier Awadi est une parfaite transition puisque nous parlons de l'étude conjointe que vous avez publiée sur le 6 novembre intitulée « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Et parmi les thématiques abordées avec les 500 militants que vous avez interrogés, il y a l'économie. Et dans l'économie, il y a notamment le franc CFA. Alors, sur ce point, il y a un rejet massif, clairement, du CFA, ce qu'on peut lire dans l'étude. Je rappelle, pour nos auditeurs et auditrices, c'est une monnaie commune, le franc CFA, qui, à l'origine, est une monnaie coloniale, qui s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, c'est un rejet massif par les participants. Ils ont aussi une certaine idée reçue du poids économique de la France dans leur pays. Mais d'abord, sur le franc CFA, Brigitte, peut-être, quels sont les arguments mis en avant par les militants pour rejeter cette monnaie commune ?
Alors, les arguments mis en avant par les militants pour rejeter cette monnaie commune, c'est le fait que c'est une monnaie coloniale qui a été créée à un moment donné pour rembourser en quelque sorte les esclavagistes et que dans ces conditions-là, cette monnaie doit être rejetée parce que c'est le signe même de la dépendance de l'Afrique et de la mainmise de la France sur les économies africaines. L'économiste que je suis a une opinion différente.
J'avais pas précisé dans la bio que vous étiez oui, économiste.
Voilà. A une opinion différente parce que moi, je connais bien l'histoire d'un monsieur qui s'est véritablement libéré de cet esclavage-là, qui s'appelle Abdoulaye Fadiga, qui a été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège était à Paris, rue du Colisée à l'époque, où on estimait que seuls les Blancs avaient la capacité pour gérer une banque centrale, surtout une banque centrale de plusieurs États africains. Et ce monsieur a eu le courage, du jour au lendemain, de licencier tous les cadres français de la banque qui ont essayé de saisir les prud'hommes, qui ont essayé d'attenter à sa vie, à celle de sa famille, etc. Et assez rapidement, il a, avec la bénédiction de Houphouët Boigny, que l'on qualifie en général de chef d'État collabo, fait accélérer les travaux de construction du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar.
Mmh.
Et les équipes ont déménagé très très rapidement. Ils ont commencé leurs travaux dans les gravats et ces équipes ont été africanisées entièrement du jour au lendemain.
On était dans lesquelles années ?
1975. Et beaucoup d'Africains ignorent cette histoire-là. Mmh. Et ça me fait mal au cœur parce que ce monsieur, très rapidement après l'africanisation, probablement de par les pressions et les tensions qu'il a subies, est décédé d'un cancer du foie, fulgurant. Mmh. Et à chaque fois que l'on traite de franc CFA de monnaie coloniale, ça me fait mal au cœur pour le courage qu'il a eu, et pour le courage, et je vous assure que les premiers cadres africains qui ont travaillé dans cette BCAO africanisée, y ont mis toute leur énergie, toute leur vie, et il restait pendant quelques années deux représentants de la France au conseil d'administration de la BCAO, et cette histoire-là s'est terminée, il n'y a plus de représentants de la France à la BCAO, donc c'est un peu dommage, je trouve vraiment dommage que l'on continue à dire que le franc CFA est une monnaie coloniale.
Coloniale et pas
voilà,
africaine.
C'est réellement dommage, et d'autant plus que moi je dis, cela fait presque 40 ans que la CDAO a un projet de monnaie commune africaine,
qui tarde à
sortir, qui n'arrive pas à sortir.
C'était l'écho, je crois.
Voilà, l'écho. Mmh. Et donc, moi, de temps en temps, j'aime bien renvoyer les Africains dont je suis face aux réalités. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la parole de Thomas Sankara tout à l'heure, qui disait qu'il fallait aussi respecter leur propre peuple. On ne peut pas indéfiniment se plaindre que l'Afrique ait été partagée, charcutée à Berlin, et être incapable de faire ne serait-ce qu'une union économique à 15 et on fragmente sans arrêt à chaque fois qu'il y a un problème. on s'en va, on va créer autre chose et on est incapable de se fédérer. On ne peut pas éternellement continuer à dire que le franc CFA est une monnaie coloniale, etc., et être incapable nous-mêmes de créer notre propre monnaie commune à 15. Donc, si on met fin au franc CFA et s'il faut que chaque pays, micro-pays issu de Berlin, aille créer sa monnaie nationale, il n'y a pas d'avenir pour les peuples. Et d'ailleurs, des pays comme le Ghana, qui ont déjà une économie relativement solide et qui ont leur monnaie commune.
La Guinée.
Ou la Guinée, ou l'ex-Zaïre avec une monnaie qui valait 2 dollars pièce. Aujourd'hui, le franc congolais est à combien? Donc, toutes ces analyses-là, franchement, ce qui est dommage dans ce discours, c'est que c'est... Sur la monnaie, c'est un sujet technique qui a été malheureusement vulgarisé et avec des propos qui ne correspondent pas à la réalité économique que représente cette monnaie. Et je tenais à faire cette mise au point parce que franchement, c'est une instrumentalisation d'un sujet.
Mais finalement, ce que vous dites, c'est intéressant. Je vois deux points. Le premier point, c'est que vous dites finalement, il y a une méconnaissance de l'histoire. Puisque vous rappelez cette histoire, que moi, je ne la connaissais pas, cette histoire. Mais cette histoire donc, de 1975, où les Africains décident de prendre en main finalement cette banque centrale. Ça, c'est une première chose. Donc, ceux qui critiquent le franc CFA en disant que c'est une monnaie française et coloniale donc, ne connaissent pas ce point de l'histoire. Donc déjà, c'est un premier problème. L'autre chose, c'est j'ai en tête quand même une image. C'est Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui discute avec Alassane Ouattara, le président ivoirien, de l'écho. Et pardon, on peut quand même aussi se dire, c'est encore la France. Pourquoi le président français vient parler de la future monnaie commune des Africains avec Alassane Ouattara à Abidjan?
Il a simplement fait un hold-up sur un projet, et voilà.
Oui, c'est vrai qu'ils ont annoncé en plus tous les deux comme s'ils allaient créer...
Tout à fait, voilà. il a fait main basse sur un projet qui existe depuis longtemps, et ce qu'on peut reprocher aux Africains, c'est de n'avoir pas réussi à le concrétiser à 15, puisque c'est un projet de la CEDEAO.
Alors cette perception du franc CFA, c'est intéressant le propos qu'on vient d'avoir, parce que sur le poids économique des entreprises françaises aussi, il y a beaucoup de fantasmes en fait, hein, on lit dans votre étude. Alors évidemment, les entreprises françaises sont présentes, il y a des grosses entreprises françaises qui sont présentes. Mais ce qu'on lit, c'est qu'en fait, ils considèrent la plupart du temps que les entreprises françaises quasiment ont le monopole, enfin ont beaucoup trop d'influence en fait dans leurs économies. Et dans l'étude, vous mettez en regard cette perception avec des chiffres concrets, c'est-à-dire de combien pèsent finalement les entreprises françaises dans les économies de ces pays. Dan, peut-être sur ce point-là précis, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de cette...
Je me permets juste très rapidement de revenir un peu sur le CFA.
Bien sûr.
Parce que c'est intéressant. Brigitte, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. C'est très intéressant et ça montre aussi beaucoup d'ambivalence qu'on a eue au moment des discussions sur le CFA, comme celui-là, parce que c'était un des grands sujets des groupes de discussion que nous avons eus, et notamment sur le fait, en fait, quel avenir. Donc, on a en effet un régime, mais on ne sait pas comment exactement aller de l'avant, notamment sur... Il y a une très grande aspiration panafricaine, donc on veut quelque chose ensemble, mais en même temps, souvent, on est très conscient que peut-être ça peut ne pas marcher. Et donc, il y a des perspectives très différentes entre une rupture très radicale avec le franc CFA ou plutôt une refondation qui serait beaucoup plus smooth et qui irait vers quelque chose de nouveau, mais en même temps différent. Enfin, nouveau, mais en même temps qui prendrait un certain héritage. Donc, c'était assez intéressant.
D'ailleurs, il faut rappeler peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices que en Afrique de l'Ouest, par exemple, le Nigeria, qui pèse beaucoup dans les décisions aussi, a sa propre monnaie, le Naira, et donc n'est pas très moteur, en fait. Oui. Traîne un peu les pieds aussi sur cette question de monnaie unique. Donc, il y a des réalités, finalement, par pays, hein, des réalités nationales, qui font que c'est pas si simple.
Alors, parce que c'est vrai que ça, c'est une caractéristique également africaine dont je peux parler de manière totalement décomplexée. C'est que dans ce projet de monnaie commune, il y a une chose qui gêne, c'est que ça impose une discipline. Ça impose une discipline à tout le monde. L'un des avantages de la BCAO aujourd'hui, c'est quand même d'imposer une discipline en termes de gestion budgétaire, d'équilibre de la balance commerciale, etc. Et de gestion des réserves de change. Mmh. Alors que Nigeria, le Ghana, aujourd'hui, Yahya Jammeh, à l'époque, à Gambie, quand il est tombé, une bonne partie des réserves de change du pays se trouvait dans la cave de son palais. Oui, effectivement, certains pays francophones, le fait que la BCAO impose des contraintes assez rigoureuse, ça les gêne, ils aimeraient bien retrouver une certaine liberté d'action. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Nigeria n'est pas très, très pressé à ce que la monnaie éco, la vraie de la CEDEAO, pas celle de la France et de Macron, etc., voit le jour parce que, à partir du moment où on sera dans une union, ça impose des contraintes qui s'appliqueront à tous, alors qu'aujourd'hui, ils ont tout de même une certaine liberté pour gérer leur monnaie. Donc, c'est cette discipline-là que nous n'acceptons pas. Et qui fait que parfois on a du mal à avancer.
Donc parce les peuples demandent quelque chose et en haut ça met du temps.
Et voilà. Et de toute façon, chacun parle de souveraineté, mais à partir du moment où on est dans un ensemble plus grand, on est obligé de renoncer à une parcelle de sa souveraineté. Et ça, les pays ne sont pas habilités. Enfin, ils ne sont pas encore disposés à le faire. Ils ne le font pas à 15 et ils ne vont pas le faire à 54. Il ne faut pas rêver. Quoi.
L'Union africaine. Dan, je reviens vers vous en très peu de temps, si possible, sur cette question d'entreprise française, de poids d'entreprise française, juste pour partir du français CFA et aller sur ce poids, vraiment c'est assez flagrant. Donc la France, en fait, les entreprises françaises, selon les militants, seraient tout puissants dans leur pays. Quelle est la réalité ?
C'est l'une des seules données qu'on a croisées avec des données objectives, parce qu'on s'est donné comme objectif, en fait, de vraiment pas questionner en fait ce qu'on nous dit, qu'on était là pour rapporter les dires des militants, mais là c'était une donnée qu'on a décidé de croiser. En fait, ce qu'on avait vu, c'est que finalement, on a tendance à surestimer, mais il s'agit aussi d'un biais méthodologique dans le sens où les enquêtes de perception ont tendance à amplifier ce genre de choses. Les dires sur l'économie, sur la perception de l'économie, quand on en discutait dans les groupes de discussion, étaient beaucoup plus nuancés. Mais il y a une reconnaissance, par exemple en Côte d'Ivoire, les télécommunications sont très basses, sont contrôlées. La présence des télécommunications françaises, que ce soit Orange, que ce soit Groupe Bolloré, est quand même beaucoup plus visible. Elle l'est beaucoup moins, par exemple, au Bénin. Au Tchad, des secteurs très stratégiques sont aussi au cœur des enjeux politiques. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui s'est, pendant l'enquête quantitative, transmis avec une surestimation. Mais en effet, par exemple, au Gabon, c'est le pays où on a le plus de poids de l'économie, le poids des entreprises françaises est le plus grand, on est à autour de 13%, il me semble, alors que par exemple au Bénin, au Tchad, on est à 3% du PIB du pays. Donc c'est quelque chose qui reste assez petit finalement. C'est souvent pour...
Est-ce que c'est une question de visibilité aussi ? Parce que
absolument.
Vous citiez Orange, c'est vrai que quand on connaît les pays d'Afrique de l'Ouest un petit peu, comme le Sénégal, Orange est partout. Donc on a l'impression qu'il y a une surreprésentation finalement des entreprises françaises dans l'économie. C'est ça peut-être, cette
exactement.
Visibilité ?
C'est absolument une question de visibilité, c'est-à-dire à quel point on est, dans quelle mesure on est confronté en fait de manière de tous les jours aux entreprises françaises. Et quand on a Orange et qu'on voit les panneaux de Orange un peu partout, que tout le monde utilise une puce Orange, c'est vrai que ça commence à donner une certaine...
Les panneaux des villes, hein. Les panneaux des villes sont sponsorisés par Orange.
Et quand on a Canal Box...
ouais, absolument, Canal Plus, tout ça c'est des... Enfin, notamment dans les télécommunications, c'est quelque chose qui marque les esprits. Ouais. Ou par exemple les débats stratégiques, que ce soit l'uranium au Niger ou le pétrole au Tchad, qui...
On en parle récemment de l'uranium au Niger, effectivement Areva, enfin, la France qui aurait toutes les réserves d'uranium dans sa main, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des Chinois aussi, il y a une certaine concurrence. Par contre ils sont assez tranchés sur l'influence des entreprises françaises dans la grande influence de la France, c'est-à-dire qu'ils estiment que les entreprises françaises jouent un rôle dans l'influence générale de la France, en fait, hein. C'est ça ?
Absolument. En fait, le secteur où la France est le plus critiqué, c'est celui de l'économie. C'est-à-dire que c'est là où la France est le moins fiable, et pour une raison assez évidente, qui est le fait qu'ils pactisent souvent avec des responsables politiques. notamment pour leur propre gain économique, c'est-à-dire qu'il y a des questions, des affaires de corruption, des questions de corruption, de malgestion, et qui, bah, du coup, finalement, ne serait pas bénéfique ni aux économies et ni au système politique des pays africains.
Vous êtes sur Aligre FM dans l'émission Horizon 21. On va se retrouver après une petite pause musicale avec un morceau qui s'appelle France Afrique de Rockin' Squad.
Aligre FM 93.1.
Histoire, celle qui encore aujourd'hui ramène des milliards d'euros au pouvoir. Africa, Africa, la France t'aime. Africa, Africa, la France te ken. Africa, Africa, ce continent saigne. Africa, Africa, il y a trop de problèmes. France, mon pays n'est pas mes atouts. En soutenant le Soudan ou le Zaïre, Mobutu. France, mon pays n'est pas mon combat. Je n'ai pas tué Abdallah ni soutenu Eyadema. Chat de débit pour le clan des Agawa. Je n'ai pas mis au Cameroun en place Paul Biya. Je ne décime pas la forêt comme le groupe Bolloré. Et je n'ai aucun intérêt dans le génocide rwandais. G, L, N, F. Tiens d'autres Illuminati à la tête de Elf. D, G, S, E. On a aussi notre CIA pour qu'ils se tiennent mieux. On me parle d'immigration mais jamais de la BNP, de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais. Qui font des millions d'euros en Afrique sur le pétrole. Anéantissent le Congo, d'autres le Sierra Leone.
Africa, 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 eh. Africa, 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 eh.
Au Luxembourg, affilié à Paribas, avec comme client une faute Boigny, Kadhafi ou Bokassa. Dirigé par Nadmi au chipote de Pasqua. Cette banque a financé la radio qui tue à la Rwanda. Eh, hey, négro, c'est le funky bap tout qui rappe l'info. Élevé au poulet braisé, sauce ma fée de Bamako. Charles de Gaulle donna l'indépendance à Africa. Mais mis en place Jacques Faucard qui les nigga. Ne me raconte pas tes histoires, je sais de quoi je parle. Trafic de femmes, d'âmes, trafic de cam. Tu veux de la poésie? Écoute mes flows. Ici c'est Rocking Squad, le relais de l'info. Les Mitterrands ont toujours cautionné les dictatures, celle de Sassou Nguesso ou celle d'autres ordures. O, T, A, N, on dirait qu'ils sont tous de mèche pour que l'Afrique saigne. Forestier, Rougier, l'exploitation du bois continue de la tuer.
Africa, Africa, Africa.
Sur Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et sur internet partout ailleurs via le site aligrefm.org. Vous êtes dans l'émission Horizon 21. Vous venez d'écouter France Afrique de Rockin' Squat et Cher Tidiane Sec qui date de 2016. Je suis toujours avec Dan Sanaren du série Sciences Po et Brigitte Améganvi de Tournons la Page pour parler du rejet de la France en Afrique. On continue de parler de votre étude, De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom, publié le 6 novembre. On va parler maintenant, après avoir parlé de sécurité, de l'armée française, d'économie, on va parler de démocratie, parce que finalement, quelque part, c'était un peu le thème central aussi. Sur cette question, les participants regrettent à une large majorité une attitude française que vous qualifiez de double standard. J'aimerais d'abord que vous expliquiez à nos auditeurs et nos éditrices ce que vous entendez par double standard. Brigitte, plutôt Dan, du coup ?
Bah, j'y vais. Donc, le double standard, c'est quelque chose qui a été beaucoup rapporté. Peut-être Brigitte y reviendra aussi. Mais c'est, enfin, c'est quelque chose qui est vécu comme une grande injustice, dans le sens où on n'approche pas la diplomatie avec les différents pays africains de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre un dirigeant ami et un dirigeant qu'on considère comme ennemi. Et ce qui était vécu notamment comme l'exemple le plus parlant de ça, c'était ce que nos interlocuteurs ont appelé l'intronisation en fait de Déby Fils au Tchad. Mmh.
Suite à la mort, donc on rappelle à nos auditeurs et auditrices, son père meurt sur le front, ouais. Idriss Déby Itno, et donc son fils prend le pouvoir contre la loi, enfin contre la constitution. On a parlé de coup d'état constitutionnel.
Absolument, et c'est à cette occasion-là, Macron s'est déplacé au Tchad, et ce qui a été vécu bah, finalement comme...
un adoubement.
Exactement, alors qu'en même temps, on était en train de condamner les coups d'état militaires au Mali, au Burkina Faso, et plus tard au Niger. Pareil, cette double attitude, notamment avec le coup d'état au Gabon et en Guinée, qui sont beaucoup moins critiqués que, par exemple, les coups d'état au Sahel central. Donc voilà, cette... C'est quelque chose qui est donc très critiqué, puisqu'on n'a pas les mêmes, on n'approche pas la démocratie de la même façon. C'est-à-dire qu'on se permet d'un côté, notamment avec les coups d'État constitutionnels, à bafouer la démocratie, mais de l'autre côté, quand il y a un coup d'État militaire, surtout quand il y a un coup d'État militaire qui ne nous plaît pas, on y va de manière très radicale, avec souvent des représailles, avec des politiques qui sont de plus en plus violentes envers ces pays-là.
En fait, c'est l'idée de dire que tant que ces coups d'État ne gênent pas les intérêts français, c'est un petit peu l'idée qui se répand du coup.
Exactement.
Chez eux, c'est que tant que ça ne gêne pas les intérêts français, la France laisse faire, mais dès que ça dérange les intérêts français, la France intervient.
Exactement.
Il y aurait le double standard, c'est comme s'il y avait, d'une part, les bons coups d'État, qu'on adoube, et puis les mauvais coups d'État qu'on réprime, qu'on sanctionne, et le comble de la sanction a été la menace d'intervention militaire contre le Niger à la suite du coup d'État, à la suite du putsch.
Alors finalement, loin de l'idée qu'on aurait en Occident ce qui serait une bonne démocratie, toutes et tous semblent attendre avant tout une efficacité de la gouvernance. Alors moi, ça m'a marqué aussi dans cette étude. On expliquera pourquoi. Est-ce qu'on peut juste dire deux mots sur cette efficacité de gouvernance? En fait, on sent une vraie frustration. Hein.
Oui, l'efficacité de la gouvernance, c'est qu'on a finalement l'impression que, et ça on le met également comme un grief hein, contre la France, c'est que la France soutient par des aides militaires, par des instructions militaires, certains régimes qui, en fait, sont des régimes autocratiques, mais qui se cachent derrière des élections truquées, des modifications de constitution, etc., qui, eux, ne sont pas perçus, ne sont pas lus comme des coups d'État constitutionnels, mais la France continue à les soutenir, et ces régimes-là, en général, ne font rien pour sortir leur population de la misère. Et le cas le plus typique, c'est celui de mon pays d'origine, le Togo, où la dynastie Gnassingbé est au pouvoir depuis 1967. Et moi, en 91, lors de la conférence des forces vives qui s'appelait Conférence nationale, qui avait décidé de retirer l'essentiel des pouvoirs au général Gnassingbé pour les confier au Premier ministre pendant la transition, avant même la fin de la conférence nationale, les travaux, l'hôtel où se déroulaient les travaux a été encerclé et il n'y a eu de cesse de coup d'État contre la primature. Et lorsque le Premier ministre, doté des pouvoirs que la conférence nationale lui a donnés, a voulu faire jouer les accords de déférence et a fait appel à l'armée française, les forces françaises sont venues, ils sont restés stationnés à Cotonou, jusqu'à ce que les forces de Gnassingbé père réussissent à tuer une bonne partie de la garde du Premier ministre et récupérer l'essentiel des pouvoirs. Donc ça a été une restauration finalement de la dynastie Gnassingbé que beaucoup de Togolais attribuent à l'influence française.
Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils ont une mémoire quand même historique. Et donc du coup, c'est... Alors, vous citiez le cas du Togo, mais c'est vrai qu'on peut citer d'autres...
Le Gabon, c'est pareil.
Voilà, le Gabon.
Le Gabon, c'est un cas qui est assez intéressant parce que justement, on a eu un coup d'État
l'été dernier.
L'été dernier, exactement. Qui, pour la majorité...
Enfin, dernier, l'été 2023.
Parce que on est plus en été. qui, pour beaucoup, était vécu comme un coup d'État salvateur. C'est un coup d'État
oui, accueilli par la population.
Exactement, qui mettait fin à un règne dynastique. Et donc, c'est quelque chose qui allait au terme, à un certain terme qu'on ne voit pas forcément encore, sera bénéfique pour l'évolution politique du pays.
Oui, on rappelle le Gabon, hein, près de 60 ans de règne de la même famille, hein, la famille Bongo, qui a été chassée donc à l'été 2023. La question du modèle démocratique qui aurait été importé et imposé par l'Occident, c'est intéressant aussi ça.
Oui, là aussi, moi aussi, je m'inscris un peu en faux contre cette affirmation. Je suis désolée, mais je n'ai pas l'habitude d'être dans la mouvance majoritaire.
Mais tout simplement, c'est très bien.
Non, mais tout simplement parce que moi, je connais un peu l'histoire et je sais comment la première conférence nationale qui a ouvert la voie pour l'ère démocratique s'est passée. Elle a eu lieu au Bénin. Et c'est à la demande du général ou maréchal, il était à l'époque, Kérékou, qui était marxiste-léniniste, etc. Et c'est lui-même qui, d'office, est allé voir le prélat du coin pour lui demander de l'aider à sortir de l'impasse parce que son régime ne marchait plus. Et c'était, leur conférence nationale a eu lieu en 1989, le discours de La Baule, c'était en 91. Mmh. Donc on ne peut pas dire que c'est le discours de La Baule qui a imposé la démocratie.
On rappelle le discours de La Baule, qui est le discours donc, de François Mitterrand, hein, voilà. qui dit aux pays africains, grosso modo, maintenant il faut du multipartisme, de la démocratie, plus de démocratie. Hein.
Voilà. Bon, voilà, en gros, c'est l'aide sera plus généreuse.
Si vous êtes plus démocratique, voilà. on voit le résultat 30 ans
et
après.
Et c'est bien parce qu'ils voyaient bien que les populations se levait face à cette revendication démocratique forte qui s'est un peu alignée et le mur de Berlin étant tombé, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'intérêt à financer des déficits budgétaires pour soutenir la France. Et donc, voilà.
Est-ce que pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est tout simplement une désillusion? C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des militants que vous avez interrogés, ils ont une désillusion face à une démocratie qu'on leur a présentée comme quelque chose qui était censé les représenter. Et en fait, dans beaucoup des pays dans lesquels vous avez interviewé ces militants, on se rend compte que cette démocratie ne les représente pas vraiment. Donc il y a une désillusion face au modèle démocratique.
Absolument, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a un très grand attachement à la démocratie, c'est-à-dire qu'on voit la démocratie comme quelque chose qu'il faut tendre. Mmh. Mais on se pose beaucoup de questions sur comment y arriver, et est-ce que le modèle qui existe maintenant est le bon. Et c'est là, en fait, c'est là où la question d'efficacité rentre également dans le débat, c'est-à-dire que... certains pays ont connu beaucoup d'instabilité, on était encore confronté à une série de coups dans les dernières années, et c'est des choses qu'il faudrait à un moment retravailler, à se réapproprier, et donc c'est ce désir de réappropriation à faire notre propre démocratie en Afrique, pour les militants, qui est en fait au cœur des discussions, c'est-à-dire comment se réapproprier un modèle démocratique sans forcément avoir l'impression que c'est quelque chose qu'on a hérité, qui nous a été imposé, par l'extérieur, qu'on a calqué sur le modèle français occidental.
De l'ancien colon.
Oui, mais si vous dites à un Sénégalais que la démocratie lui a été imposée, il vous dira que ce n'est pas vrai. Il vient encore de le démontrer avec des élections législatives absolument magistrales. Mmh. Mais partout où la démocratie a été confisquée, eh ben elle a échoué. Là où on laisse la population de plus en plus prendre, s'exprimer librement, prendre les choses en main, donner son point de vue et jouer de sa carte d'électeur à bon escient, bah, la démocratie fonctionne.
Et peut-être c'est justement pour ajouter quelque chose, par exemple au Tchad qui connaît encore un pouvoir relativement dynastique, l'aspiration démocratique est extrêmement forte. Au Côte d'Ivoire,
il y a... En fonction des réalités...
ça change beaucoup.
Des pays, des régimes...
Au Côte d'Ivoire, il y a un sentiment d'impuissance face au coup d'État constitutionnel qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que...
Troisième mandat d'Alassane Ouattara, il n'aurait pas fait que deux.
Chez eux, la critique est beaucoup plus forte et on a un peu moins cet espoir de démocratique qu'on sent, disons. C'est-à-dire que ça change énormément en fonction des contextes.
En fonction des contextes.
Et des réalités qu'ils sont en train de vivre, finalement, en tant qu'acteurs de la société civile, engagés dans des combats pro-démocratie, souvent dans des mouvances, soit d'opposition, soit de critique, et qui parfois peuvent être donc, mis dans, au danger par les certains régimes dans lesquels, qu'ils sont en train de critiquer.
Et comme vous disiez, Brigitte, pour conclure, laisser d'abord les peuples, finalement, décider de leur avenir. On va terminer là-dessus, c'est la fin de notre émission. Déjà, c'est passé très vite, on aurait voulu aborder encore beaucoup plus de questions avec vous. Nous arrivons au terme donc, de ce numéro d'Horizon 21. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'Horizon 21 est une émission proposée un mardi sur deux par Afrique 21 et Orient 21 sur Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site internet aligrefm.org. Merci Dan Sanaren, merci beaucoup d'être venu dans le studio de Aligre FM. Merci Brigitte Améganvi, merci beaucoup pour votre éclairage passionnant. Merci d'avoir éclairé nos auditrices et nos auditeurs sur ce qui se cache derrière la notion de sentiment anti-français. C'était passionnant, en Afrique bien sûr. Un grand merci à Bruno Mondé et Armand Gury pour la technique et à Fabien Molon pour la programmation musicale qui à chaque fois nous régale. Vous pouvez retrouver, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à nos sites d'information en libre accès, orient21.info et Afrique. 21, pardon, point info. Je rappelle d'ailleurs qu'Afrique 21, tout comme Orient 21, sont en pleine campagne de dons. Nos contenus sont accessibles à tous gratuitement, mais l'information indépendante, on le répète, de qualité à un coût. Seules nos lectrices et nos lecteurs peuvent nous permettre de continuer. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro d'Horizon 21, et d'ici là, portez-vous bien.
Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Cherchent encore ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs autour du feu de bois, le son des tam-tams s'élève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Le dressés. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.